La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour chers auditeurs et soyez les bienvenus dans l'émission La Torah expliquée. Pendant un quart d'heure, Guy Attia, directeur du Berger d'Israël, répond aux questions que Benjamin Wagner, journaliste protestant, se pose sur la Torah.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Alors nous revenons à notre extraordinaire personnage de Joseph, hein, cette figure typologique du Messie que nous avons commencé à découvrir dans notre précédente émission. On a vu déjà combien cet homme, dès sa jeunesse, ne donne pas vraiment une image aussi positive qu'on aurait pu l'imaginer. Son côté un peu niais ou immature, on pourrait dire ça comme ça, sa tendance à rapporter à son père tous les mauvais propos, les mauvais comportements de ses frères, c'est pas vraiment un début prometteur. On peut même dire que, vu les circonstances, cette histoire ne peut que mal finir, on le sent bien. Mais ce qui marque quand même le personnage de Joseph, et pour nous qui connaissons la suite, c'est un peu plus simple bien sûr, ce sont ses rêves. D'abord dans le cadre familial, et puis plus tard aussi en prison, puis devant Pharaon.
Oui, tout à fait. Et puis c'est évident que ses rêves racontés un petit peu maladroitement par un jeune adolescent ne vont vraiment prendre de sens que bien des années plus tard. Et nous connaissons la suite du récit, bien sûr, c'est un peu plus facile. Et nous savons qu'en définitive, Dieu fera en sorte d'accomplir son plan en dépit de bien des événements qui vont tenter de le contrarier. Alors je ne reviens pas sur le caractère prophétique de cette tunique multicolore dont on a parlé la dernière fois. Cette tunique multicolore revêtue par Joseph, une tunique symbole prophétique d'autorité et de royauté. Une tunique aussi qui ne pouvait en définitive qu'exciter la jalousie des frères qui sont plus âgés et peut-être a priori plus mûrs. Une tunique aussi lourde symbole sur la peau d'un jeune homme racontant des rêves aussi évidents sur l'autorité qui sera la sienne d'ailleurs sur ses frères dans un futur proche. Voilà qui ne présage rien de bon pour des frères qui eux sont soucieux peut-être de cacher un peu leur forfait. Et donc, ce qui devait arriver a fini quand même par arriver.
Alors justement, peut-être qu'on pourrait lire ensemble ce fameux texte qui en parle. Il s'agit de Genèse 37, 12 et les versets suivants.
Alors on va lire à partir du verset 12. « Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Un petit peu plus loin, au verset 17, « Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Donc c'est finalement in extremis que le frère aîné, l'aîné de la famille, Ruben, empêche finalement la mise à mort de Joseph. Mais la situation, on peut dire, n'est pas vraiment brillante. Et les frères de Joseph échafaudent un plan pour tromper leur père et faire passer leur frère pour mort. Et ils ne portent pas ainsi atteinte uniquement à la vie de Joseph, mais ils mentent odieusement et délibérément à leur père. Rashi, donc un grand commentateur juif du Moyen-Âge, et quelques autres commentateurs juifs estiment que Joseph est puni pour ses médisances et ses calomnies racontées sur ses frères. En fait, quand on regarde bien le texte, rien ne vient confirmer dans le texte une telle hypothèse qui servirait d'alibi aux frères. Chacun des patriarches, en fait, a été confronté à sa manière au problème de la transmission de sa foi et de l'alliance. Jacob n'échappe pas à la règle et voit la situation peu à peu échapper et ses fils s'écarter de la voie qui lui semble la plus juste. Et sans doute compte-t-il sur Joseph, son préféré, pour assurer la pérennité de l'alliance après lui. Toujours est-il qu'à mon sens, Joseph n'est pas ici puni pour sa médisance. La suite du récit témoigne bien sûr que toute cette aventure a un sens prophétique et même constitue le moyen de rédemption donné par Dieu pour tout le peuple d'Israël. En effet, dans Genèse 45, verset 5, Joseph révèle à ses frères que c'est pour leur salut que tous ces événements sont arrivés. Et j'ajoute que la clé de lecture de toute cette aventure se trouve dans la parole même, dans la bouche même de Joseph, au chapitre 50 de la Genèse, soit en fait tout à la fin de notre récit. Et je lirai juste le verset 19 à 21, donc de Genèse 50. Joseph leur dit, donc vraiment tout à la fin du récit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur.
Alors, pourtant, Joseph est encore à quelques distances de ses frères quand ils ont prévu ou quand ils ont mis au point leur plan machiavélique. Et on peut dire donc avec certitude que leur plan est prémédité.
Oui, en effet, et la suite est particulièrement intéressante aussi sur le plan prophétique. Dans Genèse 37, 23, nous lisons « Lorsque Joseph fut arrivé donc auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, qui est d'ailleurs une précision qui a son importance, et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. » Alors c'est sûr que la situation non seulement n'est pas brillante, mais Joseph, en plus, là, est vraiment dans une situation terrible. Il est jeté dans une citerne en attendant d'être un peu plus tard vendu comme esclave. Et il faut savoir que dans la Torah, la vente d'un frère hébreu, donc au milieu du peuple d'Israël, comme esclave à des étrangers, était passible de la peine capitale. Et ce que font donc les frères de Joseph est tout simplement abominable, odieux, horrible. Et il semble difficile d'imaginer un complot plus criminel et plus odieux que celui-là. Et il n'est pas non plus très difficile de tirer de ce texte, bien sûr, toutes sortes de leçons éthiques pour condamner d'un côté les frères et essayer de tirer quelque chose de ce récit. Mais les frères sont on ne peut plus condamnables et la mort de Joseph, en quelque sorte, le plus précieux des fils de Jacob, va causer une peine inimaginable à son père. Alors nous voilà quand même dans un scénario digne des plus grands thrillers d'Hollywood. Mais là encore, la portée prophétique du texte transcende cette aventure épouvantable. Et le Midrash, donc les commentaires des rabbins, vient au secours du lecteur que nous sommes en soulignant, et ce qui n'est pas d'ailleurs dans notre texte, que Joseph va en fait rester 3 jours et 3 nuits dans la citerne. Alors les chiffres ici peuvent paraître un peu opportuniste, mais dans la bouche des commentateurs de la Torah, tout a un sens plus ou moins voilé. Et ces commentaires, pour la plupart, datent de bien avant même l'avènement de Yeshua au 1er siècle. Partout où l'expression « 3 jours », voire « 3 nuits » est précisée, le sens prophétique du passage est rarement mis en doute. Et on peut donc estimer que le séjour de Joseph dans les profondeurs de la citerne, a priori une citerne qui se trouvait sous la terre, constitue en quelque sorte une mort symbolique qui annonce la mort du Messie souffrant. Et la durée a ici une valeur symbolique évidente, comparable à celle de Jonas, par exemple, dans le ventre du poisson, qui lui aussi restera 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et puis, bien sûr, de Yeshua, qui connaîtra la mort et la résurrection au bout également de 3 jours.
Mais si je ne me trompe pas, l'histoire ne s'arrête pas là. Les frères vont continuer à comploter pour tromper leur père, il me semble.
Et oui, hélas, ce n'est pas tout à fait terminé. Et nous lisons en Genèse 37, verset 26, l'initiative encore de ses frères. « Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et les frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Alors là, Joseph est vendu au prix de 20 pièces d'argent, une somme qui, a priori, est assez dérisoire, parce qu'un esclave, même à cette époque, coûtait bien plus cher que cela. ce qui correspond en tout cas à 5 shekels, le prix du rachat du premier-né de toute famille israélite selon la loi de Moïse que l'on trouve en Nombre 3, verset 47. Et si on considère l'origine du rachat du premier-né de chaque famille israélite au moment de la Pâque, on peut considérer le prix indiqué ici comme celui d'une rançon pour la vie. Et nous pouvons le lire encore en Genèse 37, verset 31. « Ils prirent alors, une fois qu'ils avaient vendu Joseph, ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. » Et ici, le bouc, ou cet agneau sacrifié par les frères de Joseph, pour en imbiber la tunique multicolore que Jacob avait donnée à Joseph, est en quelque sorte, pour le Midrash, l'enseignement des rabbins, une réminiscence du sacrifice d'Isaac. Le bouc se substitue en quelque sorte à Joseph, comme dans le cas d'Isaac. Alors par ailleurs, les rabbins, pour les rabbins en tout cas, ce même sacrifice de substitution se retrouve dans la loi elle-même et dans le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, avec l'offrande quotidienne ou l'offrande perpétuelle d'un agneau en sacrifice d'expiation. Alors il devient évident que l'archétype du Messie incarné par Joseph sous-entend que le Messie doit mourir comme le bouc ou l'agneau en sacrifice d'expiation pour les péchés. Mais ce n'est pas terminé. Au verset 32, toujours au chapitre 37, nous poursuivons. « Ils envoyèrent à leur père toujours cette tunique de plusieurs couleurs, bien sûr imbibée de sang, et lui dire, et en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Quand même, quelle entreprise terrible des frères à l'égard de leur père. Et Jacob, lui, bien sûr, l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Alors, on ne sait pas vraiment si ce sont les fils de Jacob ou Jacob lui-même qui suggère que Joseph ait été dévoré par une bête féroce. Bon, il semble quand même qu'il y ait là une sorte d'évidence, hein. Mais le mensonge ici est monstrueux et va dès cet instant travailler la conscience de chacun des frères de Joseph, qui sont tous complices ensemble, et ce jusqu'à leur revirement complet bien plus tard, on lira ça une autre fois. Alors selon la tradition, Jacob apprend la mort de son fils Joseph le 10 du mois de Tishri, ce qui correspond dans le calendrier hébraïque à Yom Kippour, c'est-à-dire au jour des expiations. Et ce jour-là, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, dans le tabernacle ou dans le temple plus tard, pour offrir en ce jour unique le sang des boucs pour l'expiation de tout le peuple. Et on peut dire que cette dernière référence midrashique renforce encore plus la valeur du sacrifice substitutif et expiatoire, en définitive, de Joseph, précurseur du Messie à venir.
Eh bien, il me semble effectivement difficile de rester indifférent au modèle messianique de Joseph. Notre émission touche à sa fin. Mon cher Guy, on se retrouve dans 15 jours. Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous deux, Guy et Benjamin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Torah expliquée. En attendant, chers auditeurs, rendez-vous sur le site internet www.lebergerdisraël.org pour retrouver les thèmes développés dans cette émission.
C'était La Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.